L'atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Nous parlons aujourd'hui d'entrepreneuriat et plus particulièrement de start-up avec nos invités. Depuis le mois d'octobre à Paris, un groupe d'entrepreneurs développe une communauté et des événements autour de jeunes entreprises technologiques africaines. Deux porteurs de ce projet et quatre start-upers sont avec nous aujourd'hui. Dans 20 minutes, nous retrouvons Francis Pisani qui nous parle aujourd'hui de brevets ouverts avec l'initiative récente d'Elon Musk qui a choisi de rendre public les brevets de sa firme automobile Tesla.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Bonjour Nelly Wanji.
Bonjour Ziad.
Tu es directrice générale de Moonlook.
Tout à fait.
Moonlook, c'est un site de vente en ligne et de vente privée de créateurs africains.
Tout à fait.
Bonjour Nino Njopku.
Bonjour Ziad.
Tu es fondateur, toi, et PDG de Kerawa.com, qui est un site de petites annonces, c'est
tout
ça?
Tout à fait.
Destiné à l'Afrique, présent dans tous les pays.
Dans plus de 8 pays, exactement.
Bonjour Thierry Kentega.
Bonjour Ziad.
Toi, tu es fondateur d'Afromania Group.
C'est ça.
Qui est un site de vente en ligne accessible depuis l'Afrique. Est adapté aux réalités locales, c'est ça?
Oui, on peut le dire.
C'est-à-dire qu'on peut acheter sur votre site, même si on réside en Afrique, qu'on n'a pas de carte bancaire,
c'est surtout,
etc.
Surtout pour ceux qui résident en Afrique.
Notre dernier invité start-upper, Théophile Aberstreau, bonjour.
Bonjour Ziane.
Toi, tu représentes ici Workforce, c'est ça?
C'est ça.
C'est un service de mise en relation entre employeurs et équipes d'ouvriers qui est axé sur l'Afrique du Sud?
C'est ça, c'est un projet tout au début encore. Notre mission et notre vision, c'est de permettre à des équipes de travailleurs indépendants de trouver leur prochain travail dans le bâtiment.
Alors, tous les quatre, vous faisiez partie des startups qui ont pitché, c'est comme ça qu'on dit, donc qui ont présenté sur 6 minutes vos projets, vos entreprises, lors de Startup Africa Paris, lors de l'événement Shop My Money, dont on a parlé dans la première partie de l'émission. Comment vous avez perçu cet événement? D'abord, Nelly.
C'est une très bonne expérience, parce que je pense que c'est capital quand on est entrepreneur, d'être dans un écosystème qui permet de rencontrer des personnes qui peuvent devenir partenaires, associés potentiellement, si on est toujours à la recherche de personnes pour soutenir le projet. Donc c'est une bonne expérience pour Moonlook parce que c'était en pleine phase de lancement. Donc le jour même, je pense on a eu 400 un pic de visites de 400 parce qu'on est plutôt aux alentours de 100 visites par jour et on a eu 400 ce jour-là, donc c'était pas mal. Et puis il y en a quelques personnes qui ont passé des commandes aussi. Pour Moonlook, c'était plus d'abord une présentation de l'univers dans lequel on s'exprime, une présentation aussi des perspectives d'évolution. Donc c'était pas en mode chop money des investisseurs dans l'immédiat, mais c'était aussi pour apprendre, voir comment les autres s'y prennent pour anticiper cette phase-là qui sera certainement la levée de fonds pour aller sur le continent avec des boutiques physiques.
L'esprit de cet événement, de ce projet Startup Africa Paris, ça correspond à des besoins d'une jeune entreprise comme la tienne, Moonlook?
Oui, complètement, parce que avant de tomber sur Startup Africa et rencontrer Pierrick, quand on parle d'entrepreneuriat en France et qu'on parle d'Afrique, les deux mots dans la même phrase, ça colle pas, parce que quand on rencontre les gens ou bien les organismes qui soutiennent les entrepreneurs, il y a personne qui a une expertise sur le continent, et à chaque fois, c'est trop compliqué, c'est trop touchy, et personne ne veut mouiller la chemise, comme on dit, ou guider, donc ça reste très évasif les conseils qu'on reçoit, donc c'est quand même capital aujourd'hui d'avoir ce regroupement d'entrepreneurs avec qui on peut échanger les best practices ou
les meilleures pratiques, les bonnes pratiques, comme on dit.
Ne pas se tromper sur certaines étapes. Parce que moi, entrepreneur avec une jeune entreprise de moins d'un an, il y en a pas mal qui étaient déjà à 3 ans d'exercice, donc ça permet de pas faire les mêmes erreurs que les autres.
Thierry, pour Afromania, ton regard, toi?
Je trouve toujours très intéressant le fait de créer ce genre d'événement, en fait, parce que ça permet déjà pour nous d'avoir de connaître de nouveaux projets, en fait, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça permet de se créer un nouveau réseau, ou en tout cas d'accroître son réseau. Et comme Nelly l'a dit, en fait, c'est que l'écosystème entrepreneurial, en fait, il est toujours bien à côtoyer, tout simplement parce que ça redynamise, en fait. Et ça remotive souvent les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs que nous sommes, parce que c'est pas tous les jours simple. En fait, donc le fait de rencontrer des gens qui croient en leur projet, qui ont la motivation de jeunes adolescents, c'est toujours très passionnant.
Et pour nous, journalistes, ça permet de découvrir qu'il y a à Paris toute une série, des dizaines peut-être des centaines de jeunes d'origine africaine ou pas, qui sont en train d'innover à destination de l'Afrique. Nino.
Oui, alors moi j'ai trouvé l'initiative aussi très intéressante. Un, ça permet de pitcher effectivement devant des investisseurs. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire quand on est entrepreneur en direction de l'Afrique.
Mais qui est un exercice habituel normalement pour un start-upper, pour une jeune entreprise.
Exactement, c'est un exercice qui devrait être habituel effectivement, de pouvoir faire ce qu'on appelle le pitch elevator, donc de raconter son entreprise en une minute. Et c'est quelque chose qui se travaille en fait, donc il faut participer à ce type d'événement pour arriver à avoir les mots justes, les expressions exactes. Et voilà, et ce genre d'événement en fait participe de ça et c'est très intéressant. Et aussi, ça permet de faire connaître son entreprise, mine de rien. Donc je vois effectivement que, bah, par exemple, Nelly dit qu'elle a eu plus de 400 visites. Donc ça, c'est intéressant. Même si ça ne me touche pas forcément tout seul, c'est bien que la communauté progresse et aille vers l'avant. Comme disait tout à l'heure Antoine, c'est cette dynamique-là aussi qui nous rend plus visibles et qui fait en sorte que tous nos projets éclosent finalement.
En fait, c'est une forme de professionnalisation de vos projets également ?
Professionnalisation, je sais pas, alors peut-être le mot est un peu fort, parce que en même temps, moi personnellement sur mon projet, je sais pas si je veux le professionnaliser différemment, parce qu'il faut aussi sentir les choses, il faut vouloir les faire d'une certaine façon, et tel que je le fais aujourd'hui, c'est la façon dont j'ai envie de le faire. Mais non, mais voilà, ce type d'événement, moi je pense que c'est bien, parce que tout seul dans son coin, comme a dit Thierry tout à l'heure, on a l'impression d'être seul, on a l'impression d'avoir certaines problématiques seul, on a l'impression d'être stupide, de pas arriver à résoudre certains problèmes. Et en fait, on se rend compte que non, c'est les problématiques normales d'entrepreneurs, d'avoir des difficultés pour recruter, pour lever des fonds, pour trouver des bureaux, enfin pour vendre, etc. Voilà. Donc,
Théophile, toi, tu présentais donc lors de cette soirée ton projet Workforce, qui est destiné à l'Afrique du Sud, qui veut mettre en relation donc des entreprises et des personnes qui recherchent du travail. C'était assez étrange de voir un jeune comme toi à Paris avoir un projet aussi précis sur l'Afrique du Sud.
Oui, donc pour moi, Startup Africa à Paris, ça permet aussi d'avoir une autre vision, un ancrage aussi à Paris, comme je vis à Paris. Et j'avais participé à une compétition de startup en octobre dernier, qui partait de Zimbabwe jusqu'en Afrique du Sud dans un bus 5 jours, où il y a plein d'idées et de projets qui sont sortis. Et notre projet avait fini premier, donc Workforce.
Alors vous êtes tous jeunes, vous êtes tous ici à Paris. Pour certains d'entre vous, vous avez un travail en plus de votre projet. Pourquoi vous avez choisi d'orienter votre activité professionnelle, ou en tout cas une partie de votre activité professionnelle, vers le continent africain ? Nelly ?
Alors mon parcours à moi, donc j'ai fait un parcours classique, école de commerce, je suis rentrée dans un grand groupe.
Et classique pour toi, hein, mais...
Après quelques années, voilà, j'avais besoin de donner un vrai coup de fouet à ma carrière, et le meilleur moyen, c'était de d'entreprendre, parce que quand on fait une école de commerce, on nous motive à entreprendre et à dessiner l'avenir. Et là, j'étais à l'étape de ma vie où c'était décisif de prendre les risques. Et puis pourquoi l'Afrique ? Bon, l'Afrique, je suis partie sur un secteur qui me passionne, donc c'est la mode. Et depuis quelques années, j'observais les tendances, j'ai vu que les grands groupes s'y intéressaient aussi, et je me suis dit, bah, c'est une très bonne opportunité. En étudiant le marché, je me suis dit qu'il y avait un vrai potentiel de développement. Donc, créer Moonlook, c'était une évidence ensuite. C'est pas facile parce que, bon, généralement, quand on est premier sur un business model, il faut l'éprouver, et ça coûte de l'argent d'éprouver un business model. Ça prend du temps de trouver aussi des partenaires locaux. Mais l'Afrique, pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur pari qu'on puisse faire, et j'ai envie de prouver que dans 10 ans, que je n'avais pas eu tort de lancer Moonlook aujourd'hui.
Est-ce que c'est compliqué d'avoir un projet, donc toi qui n'es pas nécessairement à destination des Africains, parce que tu proposes de vendre des produits de créateurs africains au monde entier, que les gens soient en Afrique ou pas. Est-ce que c'est compliqué ça, de miser sur l'Afrique, d'expliquer cela autour de toi ?
C'est vrai que c'est compliqué quand on mise sur l'Afrique, parce que l'image en général de l'Afrique, que ce soit dans les produits ou dans le business, n'est pas aujourd'hui une image qui ouvre toutes les portes. Donc c'est toujours plus compliqué, c'est deux fois plus difficile d'expliquer que oui, les produits sont de bonne qualité, la manufacture est qualitative, que la finition est parfaite et que ça mérite le prix qui est affiché. Mais je pense que ça mérite de s'y attarder, et passionné comme nous le sommes aujourd'hui tous, on va continuer à en parler.
Toi, Thierry, ton projet, c'est de faire de la vente en ligne sur le continent africain. Alors, c'est certainement extrêmement compliqué pour des raisons logistiques, pour des raisons très simples comme la possibilité de payer. Donc, toi, tu as vraiment choisi de t'intéresser au marché africain, aux consommateurs africains, alors que tu es à Paris, que tu pourrais ne pas te soucier de choses aussi complexes. Pourquoi tu as choisi de faire ça?
Déjà, j'adore l'entrepreneuriat. J'avais envie de créer une entreprise. Un peu comme Nelly, j'ai eu un parcours aussi ingénieur. Après, j'ai fait un doctorat chez France Télécom. Mais j'ai jamais voulu être salarié, en fait. J'ai voulu créer un projet d'ampleur, en fait. Un projet assez structurant aussi. Et mon idée, c'est pas seulement d'avoir de l'argent, mais c'était aussi de rendre service. Voilà. Et je me suis dit tout simplement, comment est-ce qu'un continent d'un milliard d'habitants et une classe moyenne de 300 millions de personnes environ ne dispose que de 3-4 sites internet de e-commerce. Je me suis dit, c'est totalement aberrant. Et donc, je me suis dit, avec mon associé, en fait, Florimond Labulle, on s'est dit, bon, on va créer, en fait, l'un des sites de e-commerce les plus performants. Et on s'est dit, on va mettre les moyens, parce qu'il existait quelques sites. Mais voilà, on va construire une vraie plateforme, on va proposer 200 000 à 300 000 produits. En fait, en ligne, on va offrir de multiples moyens de paiement. En fait, voilà, on va structurer en fait une entreprise de e-commerce en fait aux normes européennes mais adaptée au marché africain. Donc c'est permettre aux gens de payer en espèces.
Donc à la livraison, c'est-à-dire voilà. Quand on reçoit l'objet, on paye
ça c'est la deuxième étape du projet. Au début, puisque nous on a démarré avec 2000 euros de capital. Et dès la première année, on a fait 50 fois en chiffre d'affaires le capital investi. C'est qu'au début, les gens, c'est en fonctionnant en fait en flux tendu. C'est que les clients ils commandent leurs produits et après ils payent leurs produits. Après, ils sont livrés. Et maintenant, la deuxième étape, c'est de passer en cash on delivery en fait afin d'augmenter les ventes. Le cash on delivery, c'est que le client en fait il paye son produit lorsqu'il le reçoit.
Et donc l'événement de Shop My Money était placé sous le signe du manque d'investissement, du manque d'argent. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens aussi avec ton projet?
Nous, Afromania a déjà réalisé une première augmentation de capital, une première levée de fonds en septembre 2012 auprès de business angels.
Donc les business angels sont des personnes qui investissent
à titre privé. Et c'est différent des VC, des venture capital, qui sont des structures qui investissent. Et l'idée en fait, c'est que pour grandir aujourd'hui, parce qu'il y a des concurrents qui arrivent, donc il y a notamment Jumia, il y a Cdiscount aussi qui va s'implanter en Afrique. Donc l'idée pour nous, c'est de grandir. Et donc effectivement, un événement comme Chop My Money nous aurait permis de recevoir, en tout cas, de capter des fonds.
Et vous êtes tous les quatre basés ici en France. Est-ce que c'est un bon endroit pour investir vers l'Afrique ou est-ce que c'est une première étape avant peut-être d'installer vos entreprises, vos startups sur le continent africain, Nino?
Alors moi, je suis basé ici, mais disons que j'ai plusieurs personnes qui sont déjà basées localement, par exemple au Cameroun. Donc le fait d'être ici, effectivement, c'est historique.
Pour ton site de petites annonces.
Pour le site de petites annonces, effectivement. Donc j'ai des personnes sur place, on va dire, qui vont à la rencontre d'entreprises, de particuliers, pour leur expliquer ce que le site fait, à quoi ça peut servir et comment ça peut être intéressant pour ces personnes-là. Le fait d'être ici, moi, aujourd'hui, ça me pose pas de problème spécifique, puisque je me rends au Cameroun, qui est le pays phare sur lequel on a déployé le site aujourd'hui. Je me rends au Cameroun assez régulièrement, enfin environ une fois par an, et ça suffit largement. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a différents moyens de communication en ligne qui permettent de communiquer avec les gens sans forcément être physiquement sur place.
Lors de l'événement de Shop My Money, chacun d'entre vous donc a pitché, présenté son projet devant un jury d'investisseurs. Parmi ces investisseurs, il y avait Philippe Gire, qui est fondateur du fonds d'investissement Elaya, dont il est également un des partenaires. Un fonds de capital risque, c'est comme ça que ça s'appelle, qui investit dans l'économie numérique et gère 125 millions d'euros. Je lui ai demandé ce qu'il avait intéressé dans l'événement de Shop My Money.
Ben moi, j'étais intéressé pour voir effectivement un ensemble de projets qui se développe en Afrique ou pour l'Afrique. Et j'ai trouvé que c'était, de ce point de vue-là, une réussite parce que j'ai vu 13 projets qui étaient assez variés, certains très ambitieux. Et du coup, je pense qu'il y a matière à faire des choses pour un investisseur en Afrique.
Vous êtes vraiment venu en investisseur. Vous vouliez voir ce qu'étaient les projets et éventuellement, ça vous intéresserait d'investir dans ce genre de projet?
Alors, je n'ai pas actuellement un fonds qui m'autorise à investir en Afrique, puisque lorsqu'on fait des fonds, on vend à nos propres investisseurs une stratégie d'investissement qui a une composante géographique. Et donc, actuellement, on est sur la France et l'Europe. Mais dans des réflexions plus long terme, effectivement, ça peut être une zone d'investissement intéressante.
Plus généralement, ce type d'événement, ce type de rencontre, des jeunes qui décident de mettre en valeur l'Afrique, de mettre en valeur des start-up africaines, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois que c'est un bon moyen de faire connaître les spécificités de l'Afrique, de montrer qu'il y a là-bas aussi des entrepreneurs ambitieux et qui ont envie que les choses bougent. On a eu aussi au cours de la des présentations des chiffres qui montrent que l'Afrique change, qu'il y a une classe moyenne qui se développe. Et donc tout ça, je dirais, est très porteur pour l'avenir.
Et vous, vous avez un intérêt particulier pour le continent ? Est-ce que vous envisagez de créer un fonds sur le continent africain ou les pays du Sud, des choses comme ça ?
C'est un peu prématuré pour le dire. Nous, on est dans une phase exploratoire pour envisager effectivement de créer des fonds qui sortent de notre champ actuel, comme je disais, la France et l'Europe. Et dans ce cadre-là, les pays en voie de développement sont effectivement une cible très intéressante.
Et qu'est-ce que vous avez pensé du thème de la soirée qui est « Shop my money » et en gros qui veut dire « il n'y a pas d'argent, il y a peu d'argent qui est investi dans les startups africaines et particulièrement dans les startups des pays d'Afrique francophone ».
Ben là, je pense que il a été cité aussi d'autres problèmes, comme par exemple les infrastructures. Je pense aussi toute la problématique du droit des contrats, l'existence effectivement d'un écosystème. Et je dirais peut-être le financement vient une fois que tout ça est en partie résolu. Donc c'est peut-être que les premiers fonds qui s'intéressent à l'Afrique sont justement pour résoudre ces manques, notamment l'infrastructure. Et les sujets comme ceux auxquels on s'intéresse nous, puisque nous on a besoin d'une infrastructure, comme on est dans le numérique, peuvent venir dans un deuxième temps.
Alors là, certains des porteurs de projets nous écoutent, d'autres qui n'étaient pas là ce soir mais qui portent des projets en Afrique nous écoutent. Si vous aviez quelques conseils à leur donner en tant qu'investisseur, qu'est-ce que ce serait ?
Le premier conseil, c'est d'avoir une forte ambition, et ça on l'a vu ce soir sur plusieurs projets. Ensuite, c'est de constituer une équipe, parce qu'un investisseur, il n'investit pas sur un individu, mais sur une équipe. Et ensuite, d'avoir le courage d'y aller, de construire son projet en faisant des tests très rapidement, en cherchant son marché, en le validant dans une logique un peu de lean startup, c'est-à-dire faire des choses que l'on développe rapidement, tester tout de suite son marché, voir si ça accroche, et si ça accroche, à ce moment-là, développer des solutions plus sérieuses et plus scalables, plutôt que de se mettre dans un tunnel de développement en rêvant d'un marché pour s'apercevoir 2 ans plus tard qu'il n'existe pas. Donc surtout quand on est dans des pays où l'entrepreneuriat n'est pas encore très développé, l'écosystème pas très développé, c'est encore plus important d'avoir cette approche de try and error.
Essai et erreur, quoi.
Voilà, voilà. Et une fois qu'on a trouvé, qu'on voit des métriques de marché qui montrent qu'on a quelque chose, à ce moment-là, il faut accélérer d'une manière très professionnelle. Et à ce moment-là, c'est les qualités d'exécution qui deviennent primordiales pour délivrer la solution, le service ou les produits à ses clients.
C'était Philippe Gire, fondateur et partenaire du fonds d'investissement Elaya. Vous l'avez écouté religieusement dans le studio. Vous avez écouté aussi ses conseils aux jeunes entrepreneurs africains. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce qu'on a entendu ? Thierry ?
Je suis en partie d'accord avec ce qu'il dit, notamment sur la motivation et l'ambition des jeunes entrepreneurs, et aussi le fait de toujours tester en fait son business en fait avant de vouloir aller plus loin, de vouloir rechercher des fonds. Mais après, je dirais que les différents fonds que j'ai rencontrés durant ces 3 ans en fait ont aussi des beaux discours, mais ne mettent jamais d'argent, parce que on a beau dire, parce que ça fait 5-6 ans qu'il y a des rapports McKinsey qui sortent, qui expliquent que l'Afrique, le continent du futur, le continent émergent,
une classe moyenne en développement,
voilà,
etc.
Tout ça, des internautes, tout le monde est beau et gentil, il y a plein d'argent à se faire, mais finalement les investisseurs en fait ne mettent jamais d'argent ou presque pas d'argent en fait dans les secteurs du futur, notamment l'internet, le e-commerce, la téléphonie mobile, les applis mobiles et autres. Ils continuent à investir en fait, dans les secteurs traditionnels. C'est-à-dire que c'est toujours les minerais, le pétrole et autres. Donc bon, voilà, je leur demanderai beaucoup plus d'ambition à eux.
Merci à tous les six. On trouvera sur l'atelier des médias un billet avec des liens, des infos complémentaires concernant vos projets à chacune, à chacun et concernant, bien entendu, le projet Startup Africa Paris. À bientôt.
Merci beaucoup.
L'atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Jeanne Malou.
Comment ça va ?
Très bien. Et toi ?
Ça va très bien, merci beaucoup. Tu veux aujourd'hui nous parler d'un événement que tu juges important, mais dont les médias ont très peu parlé. De quoi il s'agit ?
Il s'agit de la récente annonce faite par Elon Musk, cofondateur et patron de Tesla Motors, le fabricant de voitures électriques de rêve, que ses brevets pourront être utilisés par tout le monde. Peu traité par les médias traditionnels, l'événement a pourtant été comparé à la décision d'Henry Ford de payer ses ouvriers $5 de l'heure, une décision qui avait en son temps bouleversé l'industrie automobile et les économies des pays développés. Concrètement, Musk affirme dans un billet publié sur son blog le 12 juin que, je cite, « Tesla n'engagera pas de poursuite pour la protection de ses brevets contre quiconque utilise notre technologie de bonne foi. » Intitulé « Tous nos brevets vous appartiennent », le texte est un mélange de beaux discours et d'intérêts bien compris, résumé dans cette phrase, je cite, « Nous croyons que Tesla, d'autres compagnies qui fabriquent des voitures électroniques et le monde, bénéficieront tous d'une plateforme technologique en rapide évolution. »
Elon Musk, dont tu nous avais parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et qui, je le rappelle, est né en Afrique du Sud, ça c'est dans la continuité de ce dont nous avons parlé avec nos invités précédents. Elon Musk donc renonce au brevet.
Pas vraiment. Je crois qu'il ne faut pas aller si vite que ça, mais il permet à d'autres de s'en servir en promettant de ne pas les attaquer. Jadis utiles, ils servent aujourd'hui, selon lui, à étouffer le progrès, consolider les positions des sociétés géantes et enrichir les membres de la profession juridique plutôt que les vrais inventeurs. Le cœur de l'analyse est que face aux 100 millions de véhicules fabriqués annuellement, la compétition qui compte ne vient pas des voitures électriques produites au goutte-à-goutte par d'autres que Tesla, mais du déluge de voitures à essence qui sortent chaque jour d'usines dans le monde entier. Mais soyons clairs, la décision n'est pas altruiste. Elle vient d'un libertarien, une sorte d'anarchiste de droite dans le vocabulaire français, qui nie le rôle de l'État et n'accepte les syndicats que s'ils sont du même côté que les patrons. Mais plutôt que de garder ses brevets, il y en a plus de 800, et de régner sur une part infime du marché, Musk préfère augmenter le gâteau, quitte à ne pas être le seul à en profiter. Et un des enjeux essentiels est la rentabilisation d'une gigafactory qui fabriquera des batteries performantes et l'adoption par d'autres de son réseau de superchargeurs, des stations-service ultra rapides pour voitures électriques qui couvrent déjà une partie des États-Unis.
Est-ce que tout cela a pour toi des implications pour l'innovation ?
Absolument, et je les trouve essentielles, c'est bien pour ça que j'ai choisi d'en parler. Cette ouverture est en effet une triple leçon. La première, c'est que saluées par tous, les voitures de Tesla sont bien plus que la somme des brevets déposés pour les construire. Donc la leçon, c'est que la vision d'ensemble fait la différence. La deuxième, c'est que Musk espère attirer les meilleurs ingénieurs que cette philosophie open source séduit. C'est d'autant plus important qu'il ne s'agit pas de logiciel, mais de hardware, du dur, de la machine, du concret, du matériel, du physique, qui coûte plus cher et demande plus de temps. C'est en quelque sorte un deuxième niveau d'innovation. Le troisième point est que Tesla a 10 longueurs d'avance sur les autres. Et pour Musk, je cite, « Nous voulons innover assez vite pour rendre caduques nos brevets antérieurs dans les domaines qui comptent vraiment. C'est la rapidité de l'innovation qui compte. Il s'agit donc d'une sorte d'innovation dynamique. Elle consiste à s'inscrire dans un processus pour rester en tête de ses rivaux, quitte à leur donner accès aux bijoux de la couronne. Elon Musk a compris quelque chose qui avait échappé même à Steve Jobs, à qui on le compare pourtant souvent. »
On peut pas conclure en se demandant quand même si ça n'est pas un pari, Francis. Et d'ailleurs, la formule utilisée par Elon Musk, l'utilisation de bonne foi des brevets, reste quand même assez vague.
Les compagnies qui veulent utiliser sa technologie vont être obligées de rentrer en contact avec lui parce qu'elles veulent pas s'exposer à un procès. Donc, ils vont engager des négociations. Mais c'est quand même une ouverture qui est relativement sans précédent. Le pari est audacieux, mais l'enjeu, c'est élargir la taille du marché dont il bénéficiera, pas tout seul, à côté d'autres, mais ça peut contribuer pour lui à une croissance significative et pour nous à une augmentation du nombre de voitures électriques et donc à une réduction de la production de gaz carbonique.
Merci Francis Pisani. Je rappelle qu'on peut également te lire sur les sites de l'Opinion et de la Tribune, qu'on peut retrouver toutes tes chroniques, toutes tes contributions presque sur ton blog personnel francispisani.net. On peut enfin découvrir tes contributions en audio et en écrit sur l'Atelier des médias. À bientôt.
À très bientôt.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 341 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Jamel Belayachi, Johnny Bissakonou, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondeblog.org, libiablog.org et bientôt arablog.org. Notre plateforme en arabe sera lancée cet été. Nous avons déjà reçu près de 800 candidatures. Si vous êtes un mécène, un bailleur, une fondation, que vous souhaitez appuyer l'Atelier des médias, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Ce projet, l'Atelier et ses petits, Mondoblog, Arablog, Libiablog, l'Atelier Radio ont besoin de vous. Merci de votre soutien. Salut à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.